Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Tout commence en 1815. Après l'abdication de Napoléon, la France a renoué avec sa bonne vieille monarchie des
Bourbons. Ouf, dira Stéphane Bern.
Louis XVIII est sur le trône, mais le roi, évidemment, le roi Podagre, n'a pas d'enfant. C'est donc sur son neveu, Charles Ferdinand, duc de Berry, que reposent ses espoirs de descendance. C'est aussi la raison pour laquelle le roi s'investit autant dans le choix de sa future épouse. La liste est établie, uniquement composée de jeunes filles issues d'une prestigieuse lignée et en âge de procréer. Et c'est Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, princesse napolitaine, qui sort gagnante de ce casting, dont le duc de Berry reste, espérons-le, le dernier juge. Son ascendance est prolifique, on espère qu'elle sera donc féconde. La potentielle future reine est un personnage haut en couleur. Du haut de son 1m50, elle étonne par son caractère vif et énergique. Marie-Caroline est pleine de charme, elle est pétillante, elle est drôle. Des qualités qui, ajoutées à sa taille très fine, son beau teint frais et ses yeux bleus, vont bientôt séduire Charles Ferdinand. Elle n'a que 17 ans, mais lui en a bientôt 40. Et il n'a pas attendu d'être marié pour connaître les choses de l'amour. D'ailleurs, il a eu d'autres enfants. Si le duc est resté célibataire jusqu'à cet âge avancé, ça ne l'a pas empêché de multiplier les conquêtes et les liaisons qui se sont généralement, je vous le disais, soldées par la naissance d'un ou de plusieurs enfants illégitimes dont descend d'ailleurs Anémone Giscard d'Estaing. Car Charles adore les femmes, il adore la fête. C'est un bon vivant qui compense cela par son caractère généreux, mais un certain manque de grâce et de distinction, faut bien le dire. Bien vite, les deux fiancés s'écrivent régulièrement sur un ton plutôt familier, complice, et ils finissent même par se tutoyer, ce qui était rare à l'époque dans les couples. Marie-Caroline a reçu une éducation assez libre, beaucoup moins stricte que la plupart de ses pairs, et son futur mari n'est pas très à cheval non plus sur l'étiquette. C'est dans cet état d'esprit plutôt romantique que Marie-Caroline embarque pour la France en 1816. Aux portes de Marseille, elle est mise en quarantaine comme n'importe quel autre voyageur parce qu'on se méfie encore de la peste. Même si ce n'est pas à cet endroit précis qu'elle a passé son isolement, l'hôpital construit quelques années plus tard sur les îles du Frioul porte son nom, l'hôpital Caroline. Mais revenant en 1816, la jeune princesse quitte enfin Marseille, traverse la France jusqu'à Fontainebleau. C'est là qu'a lieu la rencontre officielle avec toute la famille royale. Là encore, Marie-Caroline fait preuve de sa spontanéité. Elle bouscule le protocole, elle se précipite au pied du roi pour l'embrasser sur les deux joues. Louis XVIII pourrait-il s'en offusquer? Mais non, au contraire, il est séduit comme toute la cour du reste, y compris le fiancé, Charles Ferdinand. Cette affaire s'annonce décidément sous les meilleurs auspices. Le 17 juin 1816, le mariage a lieu dans le plus beau des décors, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un splendide banquet suit aux Tuileries et vers 22h30 enfin, les jeunes mariés vont pouvoir s'éclipser et savourer quelques heures d'intimité, croit-on.
Oh oui Stéphane, racontez-nous bien en détail ces moments d'intimité.
Eh bien non, pas du tout. Ah. Les mariés n'ont pas pu s'éclipser comme ils l'auraient souhaité. C'est toute la famille qui escorte Charles Ferdinand et Marie-Caroline jusqu'au palais de l'Élysée, où ils ont élu domicile jusqu'au palais, et même jusqu'à leur chambre. Mais oh, pas la chambre à coucher, non, la chambre de parade, celle tout spécialement dédiée à la cérémonie nuptiale. À cette époque, la France n'en a pas connu depuis près de 50 ans, quand, en 1770, le futur Louis XVI épousait Marie-Antoinette. Mais cette nuit de noces requiert au moins le même sérieux. Je vous rappelle qu'on a choisi Marie-Caroline pour sa fertilité. C'est l'avenir de la famille sur le trône de France qui est en jeu. Dans la grande pièce du rez-de-chaussée, le lit a été ouvert. Il attend et les rideaux du lit à baldaquin sont tirés. Le duc et la duchesse quittent leurs habits de mariage pour des chemises de nuit blanches agrémentées de dentelles. Oh, la salle est pleine, hein. Il y a du monde au spectacle. Hein. Le roi, son frère, le futur Charles X, les cousins, les neveux, les nièces...
Ils vont pas quand même tous assister à l'événement en direct?
Bon, non, rassurez-vous, tout le monde ne va pas rester assister à la consommation du mariage. Le roi bénit les mariés, tout le monde quitte la chambre...
Ah.
Charles Ferdinand et Marie-Caroline sont-ils tout de même trop intimidés par toute cette procession? Bah oui, on le serait à moins... Si on ne sait pas ce qui s'est passé une fois les rideaux baissés, on est certain qu'aucun enfant n'a pu voir le jour 9 mois plus tard. Cet épisode n'empêche pas Charles et Marie-Caroline de se montrer très amoureux dans les mois qui suivent. Mais le duc de Berry n'a pas renoncé à sa vie mouvementée, à ses aventures. Les infidélités régulières de son mari bouleversent Marie-Caroline, qui apprend par la même occasion l'existence de ses enfants naturels. L'ambassadeur de Naples doit même intervenir pour lui expliquer que la situation n'a en fait rien d'anormal.
Bienvenue en France.
La duchesse n'a de toute façon pas le temps de s'éterniser, parce qu'un soir de février 1820, Charles Ferdinand est poignardé à la sortie de l'opéra par un ouvrier souhaitant détruire la souche des Bourbons. Bah, c'est pourtant un échec car Marie-Caroline est enceinte. Elle accouche quelques mois plus tard d'un garçon, Henri, à qui on donne le titre de duc de Bordeaux. Et malgré une nuit noce propice, le contrat est donc bien rempli. Mais 10 ans plus tard, nouveau coup de théâtre, la révolution de 1830 vient retirer le pouvoir des mains de Charles X, grand-père du petit duc de Bordeaux, pour le mettre entre les mains de son cousin Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui devient le roi des Français Louis-Philippe Ier. Marie-Caroline tentera pendant plusieurs années, par un débarquement à Marseille, un soulèvement avorté en Vendée, de remettre son fils, futur Henri V, croit-on, sur le trône de France, mais elle n'y parviendra jamais. Remariée, imaginez-vous, Mathieu, elle aura d'autres enfants. Mais comme un ultime pied de nez du destin, Henri, l'héritier du trône tant espéré, mourra en 1883 sans descendance.
Europe 1, historiquement vôtre.